bienvenue chez Frédéric Morin. Plus heureux de connaître ceux qui n'ont pas encore entendu, peut-être ont-ils d'ailleurs entendu dans d'autres lieux, Frédéric Morin de Paris. Et si vous avez lu les cahiers évangéliques, c'est lui qui s'en occupe. Et il est aussi au Bernardin, où il s'occupe des études. Bernardin, voilà. Merci d'avoir proposé jusqu'à nous. Voilà.
Bonjour et bon dimanche à chacun. Merci au Père et vous, merci à Rémi, on a été ordonnés ensemble. J'ai donc comme chance dans ma vie d'être ami du curé d'Ars. Mais un peu, il faut que tu parles un peu plus fort, tu le vois. En fait, ça fait de la... c'est lui dans l'amitié de technicien. Voilà. Dites-moi si ça convient bien. Je voudrais vous proposer, pendant ce temps de méditation, avant l'Eucharistie dominicale, de méditer sur un texte de l'apôtre Paul, parce que c'est ce que je connais le mieux, ou le moins mal, et parce que c'est un texte qui m'aide beaucoup à réfléchir sur la prière. Et en relisant, avant de venir ici, une biographie du curé d'Ars, encore une fois, j'ai été impressionné par cette force de présence du Saint-Curé dans la prière. À tel point que vous connaissez tous cette anecdote, une petite fillette du village amenée à aller voir des parents dans un village avoisinant, on lui demande comment étaient les prêtres là-bas, elle dit qu'elle n'en a pas vu parce qu'il n'y en avait pas qui priaient comme le curé à Ars. Ça donne une petite claque quand même. Alors je voudrais lire ce texte de Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 8 qui nous enseigne sur la prière. On commence au verset 26. Bien plus. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas prier comme il convient. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ce que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ce qu'il avait destiné d'avance, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il en a fait des justes. Ce qu'il a rendu juste, il leur a donné sa gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce texte où Paul nous parle de la prière et du rôle de l'Esprit-Saint dans la prière, et nous allons voir du rôle de l'espérance dans la prière, et c'est aussi pour cela que je retiens ce texte, puisque nous sommes invités à vivre ce grand jubilé de l'espérance. Ce texte, donc, pose une affirmation avec laquelle on arrive assez facilement à nous accorder. Nous ne savons pas prier comme il convient. Si la prière était chose aisée, spontanée et facile, ça serait. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des élans de prière qui peuvent habiter nos cœurs, mais durer, tenir, être présent dans la prière, c'est pas facile. Et la réponse de Paul vient tout de suite. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. L'Esprit Saint est celui qui nous permet de prier comme il convient. Et le prier comme il convient, contrairement à ce que je viens de dire, ça n'est pas tant durer. Paul l'a précisé au chapitre 1er, la prière que Dieu attend de ses enfants, c'est la louange et l'action de grâce. Au chapitre 1er, en discutant à propos de l'idolâtrie, en disant c'est quand même étonnant que les hommes aient inversé le créateur et la créature et n'ont pas donné gloire et action de grâce au créateur de toutes choses. C'est ça la prière qui convient. Avec les prêtres de la fraternité sacerdotale, nous avons eu quelques heures, quelques jours de retraite, et nous avons aussi médité sur ce qu'est l'action de grâce. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice, et non pas comme les autres sacrifices, où on nous spécifie quel animal, quelle offrande végétale il faut faire. Non, c'est un sacrifice qui se fait avec un couteau tout simple qu'on a tous à disposition, qui s'appelle la langue. Et avec notre langue, on dit, et notre bouche, on dit merci, et on fait passer ce fin couteau entre nous et ce que Dieu nous a donné pour ne pas nous l'approprier et pouvoir le rendre au Père comme étant un don qu'il nous a fait. La prière qui convient, c'est ce sacrifice par lequel nous nous interdisons à tout jamais de nous approprier ce que Dieu nous a donné. Pour mieux prendre en compte l'œuvre de l'Esprit dans la prière, il faut remonter un tout petit peu plus haut dans le chapitre 8. Paul fait une argumentation précise et serrée. Et il commence par nous dire au verset 14 que l'Esprit Saint, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Et de cette phrase, on peut tirer deux éléments pour définir le rôle de l'Esprit Saint. Le premier, l'Esprit uni au Christ ressuscité. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous est donné pour nous unir à Jésus ressuscité. Il ne fait que ça. Tout le reste n'est que la conséquence de cette unique action. Quand on dit que l'Esprit a parlé par les prophètes, c'est parce qu'il a uni la parole des prophètes au mystère du Fils ressuscité. Quand on regarde l'œuvre de l'Esprit dans le monde, c'est l'œuvre de l'Esprit qui unit au Fils ressuscité d'entre les morts. Dans le temps de la prière, nous laissons l'Esprit Saint nous unir à Jésus ressuscité et nous pouvons ainsi être fils ou filles de Dieu. L'autre œuvre de l'Esprit, et ça n'est que la conséquence de celle-ci, ou que ce n'est que le corollaire même de celle-ci, c'est d'actualiser et de personnaliser l'unique don de Dieu. L'Esprit actualise et personnalise l'unique don de Dieu. Dans quelques instants, dans une heure, nous allons célébrer l'Eucharistie et nous allons communier. Et nous allons tous recevoir le même pain. Nous allons tous avoir part au même pain. Dans l'Antiquité, c'est un phénomène nouveau. D'habitude, chacun reçoit une part du sacrifice selon la place qu'il occupe dans la société. Là, tous, du plus grand au plus petit, nous recevons une part au même pain. Le Fils est l'unique don de Dieu que Dieu fait à tous et à chacun. Et c'est l'Esprit Saint qui, dans le cœur de chacun d'entre nous, va œuvrer pour personnaliser ce don unique, pour l'actualiser et faire de nous des membres uniques d'un corps qui est le Christ. C'est dans la première aux Corinthiens que Paul développe toutes ces idées-là, au chapitre 11 et 12. Nous sommes, par l'œuvre de l'Esprit, chacun une cellule unique du corps qu'est l'Église, et c'est l'Esprit Saint qui actualise et personnalise cet unique don de Dieu. Ainsi donc, comment pouvons-nous être affermis dans cette expérience? Le texte de Paul au chapitre 8, verset 15, continue de le dire. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Non, vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Abba, c'est un mot araméen, la langue maternelle de Jésus, un mot qui est équivalent à notre papa, même si les spécialistes ne savent pas très bien dans quel contexte il était utilisé, peu importe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que personne ne l'utilisait pour parler à Dieu, sauf Jésus. Sauf Jésus. Et le fait que Paul écrive à des Romains qui ne connaissent pas l'araméen en utilisant ce mot, ça veut dire une chose, c'est que dans la première communauté chrétienne, on priait le Notre Père, vraisemblablement, avec ce mot araméen, Abba. On redisait la prière de Jésus. L'Esprit Saint qui actualise et personnalise le don de Dieu, qui nous unit à Jésus, fait que notre prière prolonge la prière de Jésus. Nous le venons de dire pour ceux qui ont chanté les laudes, nous allons le redire dans Notre Père. Notre Père, voilà, c'est Jésus qui prie en nous avec l'Esprit. Et donc l'expérience liturgique est une première expérience où nous pouvons attester que l'Esprit est à l'œuvre en nous pour faire de nous des fils et des filles du Père. Une deuxième expérience est décrite au verset 16. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et là, il s'agit plus tant de la prière liturgique, mais davantage de la prière personnelle. Quelle que soit la forme que nous affectionnons de lui donner, l'oraison silencieuse, l'adoration du Saint-Sacrement, la Lectio Divina, le bréviaire, le chapelet, si j'en oublie, c'est une distraction, pardonnez-moi. Quelle que soit la forme de prière que nous affectionnons, nous faisons cette expérience que l'Esprit Saint vient au plus profond de nous-mêmes pour attester, pour témoigner à notre esprit et avec notre esprit, l'expression a le double sens en grec, que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit nous fait faire l'expérience que la vie filiale sous le regard du Père et fraternelle à l'égard du prochain, ça correspond au plus intime de notre désir personnel. Que de constater, de vivre cette expérience, d'avoir accès à cette position filiale et fraternelle, c'est ce qui rend belle et bonne notre existence. L'Esprit atteste avec et à notre esprit qu'il est bel et bon d'être les enfants de Dieu. Et ça, c'est l'expérience intime de notre prière. Et donc, puisque nous sommes ses enfants, nous sommes ses héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Et puisque co-souffrant avec le Christ, co-glorifiés avec lui. Je traduis plus littéralement que la traduction liturgique que je suis ce matin avec vous. Pour insister sur une chose, d'abord cette notion d'héritage dans laquelle vient s'engouffrer l'espérance. L'héritage, c'est la certitude qu'un jour nous posséderons. Les héritiers ne possèdent pas, mais ils savent qu'un jour ils posséderont. Il y a un lien avec le Christ. Et là, il ne faut pas se tromper. Paul ne dit pas « si jamais vous êtes gentil et que vous souffrez pour Jésus, alors, comme s'il y avait une récompense derrière, non ». Mais puisque vous souffrez, c'est un état de fait. Quelles que soient nos existences, traversées par des maladies, des deuils, des catastrophes, des peines, plus ou moins, tous nous souffrons pour le royaume. Tous notre désir du règne et l'épreuve de son absence est une souffrance. Après, cela se traduit différemment comme ça est donné à chacun. Mais puisque nous souffrons avec le Christ, puisque nous sommes co-souffrants avec lui, alors nous serons co-glorifiés avec lui. Paul utilise ces néologismes, co-souffrir, co-glorifier. Parce qu'en effet, l'existence est parfois difficile. Et Paul va prendre un long paragraphe pour essayer de voir comment notre prière peut transformer, peut transfigurer, pas changer, mais transfigurer notre condition actuelle. Et il commence par le dire au verset 18. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. Voilà, on est dans cette situation paradoxale. La foi nous met dans une situation paradoxale. D'accueillir une bénédiction dont on ne voit pas la réalisation immédiate. Repensons à la figure d'Abraham, à qui Dieu dit ben, « Je te donne un pays et ce sera ton héritier qui l'aura. Mais avant, vous descendrez en Égypte. » Et puis pour l'instant, le pays il est occupé. Et Abraham crut. Et ça lui fut compté comme justice. Voilà. Avant d'être capable de lire le ciel étoilé, puisque c'est ce que fait Abraham au chapitre 15 de la Genèse, avant d'être capable de lire le ciel étoilé pour dire « voilà la nombreuse descendance, voilà la grandeur de la bénédiction que Dieu nous donne », il faut s'être frotté à la présence du Dieu invisible. Là, c'est la foi, c'est la capacité à accueillir une bénédiction dans une situation paradoxale. Et donc Paul va réfléchir là-dessus et il continue avec des phrases que nous connaissons, que le pape François nous a rappelées avec vigueur dans l'encyclique Laudato Si et dans quelques textes autour. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Tout à l'heure, à propos de souffrir avec le Christ, je disais que notre désir du royaume est la première souffrance avec lui. Eh bien, ce désir du royaume, il n'est pas que le nôtre. Il est celui de la création tout entière. La création tout entière gémit, attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Ce matin, en ouvrant ma fenêtre pour prier, j'ai entendu le coq, le chien qui aboyait, et je ne sais quel autre bruit plutôt agréable, plus agréable que les bruits sous ma fenêtre parisienne, j'en conviens. Il me fallait entendre derrière ces bruits familiers la création qui attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Dans son encyclique Laudato Si, le pape François nous disait avec force, nous dit encore avec force, que la création a besoin d'une humanité filiale et fraternelle. Les oiseaux, les plantes, ce qu'on appelle aujourd'hui la crise environnementale, nous alerte et nous fait prendre conscience négativement de cela. Pour le dire positivement, on vient de chanter les laudes du dimanche matin qui sont un superbe morceau de louange. Et avec le psaume 150, le dernier des 150 psaumes, nous avons invité toute la création et que tout ce qui respire chante louange au Seigneur. Tout ce qui respire chante louange au Seigneur. Et nous avons une mission, par l'œuvre de l'Esprit en nous, à faire monter vers Dieu la louange qu'est cette respiration de la création. On ne l'a pas chanté ce matin parce que ça change selon les dimanches, mais soleil et lune, louez le Seigneur. Étoiles, louez le Seigneur. Sources et fontaines, louez le Seigneur. Avec nous, dans notre louange, c'est toute la création qui loue. Parce que nous ne sommes pas simplement un petit point singulier dans la création. Nous sommes, chacun d'entre nous, toute la création. Nous sommes les étoiles que nous avons contemplées. Nous sommes la musique que nous avons écoutée. Nous sommes l'ami que nous avons embrassé. Nous sommes le frère que nous avons accueilli. Nous faisons corps avec la création et la création attend que nous fassions corps avec elle pour pouvoir chanter la louange et l'action de grâce, qu'elle aussi veut pouvoir chanter, mais c'est notre vocation d'être à l'image de Dieu, d'adresser à Dieu la louange de toute la création, de verbaliser cette louange que toute respiration fait monter vers Dieu. La création attend avec impatience. La création est en déficit d'humanité à l'image, à la pleine image de Dieu, à sa pleine ressemblance, pour lui adresser la louange. Et du coup, et oui, qu'est-ce qui se passe? La création a été soumise au pouvoir du néant. Si nous ne louons pas assez au nom de tous, alors elle est soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. C'est le verset 20. Alors, il y a un petit débat entre les exégètes pour savoir qui est-ce qui a livré la création au pouvoir du néant. Il y a deux hypothèses qui ne se contredisent pas, mais j'insisterai sur une des deux. La première, c'est d'y voir Satan, le diable. Et la deuxième, c'est de voir dans l'ensemble de ce texte, des chapitres 5 à 8, une relecture de Genèse 3. Et donc, c'est la désobéissance d'Adam qui a soumis la création au pouvoir du néant. Et Paul, me semble-t-il, pointe sur cette idée de notre responsabilité. Dans l'obéissance à la parole de Dieu, puisque Adam désobéit à la parole de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, nous devenons cette humanité filiale et fraternelle dont la création a besoin. Et sinon, la création est livrée au pouvoir du néant. L'expression en français est très bien traduite, dit les choses avec beaucoup de force. Et pourtant, la création a gardé l'espérance d'être elle aussi livrée de l'esclavage. Avez-vous entendu ce matin dans le chant du coq l'espérance d'être livrée de l'esclavage du néant ? Il nous faut affiner notre oreille encore, encore et beaucoup. Pour connaître la liberté et la gloire donnée aux enfants de Dieu. Alors on pourrait penser qu'en disant de tels propos, à la fois très beaux sur la vocation humaine, sur la louange, sur ce pouvoir du néant, sur ce besoin de la création, Paul est un doux rêveur ou un charmant poète, mais il n'en est rien. Enfin, il est peut-être rêveur et poète, ça c'est un autre débat, on pourra en parler autour d'un verre de préférence. Mais au verset 22, il va donner le fond de sa pensée sur cette histoire. Nous le savons bien. La création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Nous le savons bien. Donc il semble redoubler le propos, puisqu'effectivement, nous le savons bien, le coq qui chante le matin appelle à la révélation des fils de Dieu. Il faut quand même dresser l'oreille. Alors d'où vient ce « nous le savons bien » ? Paul, à cet endroit-là, est vraisemblablement en train de faire référence au chapitre 3 de la Genèse, le verset 16, où Dieu dit à la femme « Pour multiplier, je vais multiplier les souffrances d'enfantement. » qui est une phrase choquante pour certaines, surtout pour certaines. C'est une phrase paradoxale, parce qu'elle commence comme une formule de bénédiction. « Pour multiplier, je vais multiplier. » Alors quand Dieu parle comme ça, en général, il y a des bienfaits à l'appel. Alors des bienfaits à l'appel, il y en a, des fils et des filles. Mais dans les souffrances de l'enfantement. C'est les conséquences de la désobéissance, une humanité qui a perdu la qualité de ses relations. L'homme et la femme sont dans des relations compliquées. C'est la création qui, tout entière, ne fonctionne plus selon le dessein de Dieu. Le meilleur exemple, le plus facile, c'est celui de ce qui est dit à Adam. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. La terre produira des épines et des charbons. Et il faut que tu travailles la terre pour qu'elle produise du froment. La terre continuera de produire, il y aura toujours bénédiction, mais il faudra que tu travailles. C'est peu ou prou la même chose que Dieu dit à la femme, pour multiplier, je vais multiplier les souffrances de ton enfantement. La bénédiction est toujours donnée, mais elle traverse un caractère pénible. Ce que Dieu dit à la femme, Paul l'applique à la création. La création est toujours bénie par Dieu. Elle porte du fruit. La vie continue de pousser, de croître. On a fait l'expérience, rappelez-vous, il y a quelques années, dans le confinement. Tout d'un coup, on est resté chez nous, on a arrêté de semer le désordre dans la création, et on a raconté des histoires d'animaux sauvages qui s'approchaient des villes, on a raconté que dans le golfe de Gascogne, on retrouvait plus de cétacés que d'habitude. Enfin voilà, suffit qu'on soit sage, ça se passe bien. Hein, voilà, la bénédiction est donnée. Mais il y a un caractère pénible dans le don de la vie, pas du côté de Dieu, mais du côté de ceux qui reçoivent. Alors, c'est en lisant l'Écriture que Paul est capable de lire ce qui se passe dans le monde. Et là, il y a quelque chose d'étonnant pour notre prière. Pour prier, il y a deux choses qui sont indispensables. La première, c'est de lire le journal. Alors, celui que vous voulez, la forme que vous voulez, au rythme que vous voulez, mais il n'est pas possible de prier si on ne connaît pas les gémissements du monde. On ne peut pas aujourd'hui prier, qu'on ne le verbalise ou pas, sans porter l'inquiétude de la paix dans le monde, le conflit en Ukraine, ce qui se passe sur la terre que Dieu a choisie, à Gaza et à Jérusalem. On ne peut pas oublier ces choses-là. Et puis nous avons tous des amis de par le monde, un ami prêtre dont je n'ai pas de nouvelles depuis un an, qui se trouve au Mirana, sous la junte. Bon, qu'est-ce qu'il en est ? On ne peut pas prier sans porter ces gens-là. Et Paul, dans la deuxième aux Corinthiens, a une très belle image. Il dit « Je porte vos noms gravés sur mes cœurs, sur mon cœur. » Voilà. S'informer, ça n'est rien d'autre que cela. Après ça, si, ça nous aide aussi à être des bons citoyens et à prendre nos responsabilités, mais ça, c'est autre chose. Pour la prière, l'information sert à laisser graver dans nos cœurs le nom des hommes et des femmes qui ont besoin que l'on prie pour eux. Première chose pour la prière. Deuxième chose qui va moins vous étonner sortant de ma bouche, il faut lire la Bible. Un bon livre. Si, je recommande. Alors, ça ne retire pas ce que je disais tout à l'heure sur la variété des modes et des modalités de prière. Mais de toute façon, le chapelet, l'adoration, l'oraison silencieuse ne se font pas sans avoir à l'horizon une connaissance renouvelée quotidienne des Écritures. Et on voit, Paul est capable de lire le monde à la lumière des Écritures. Nous savons bien, ces cris des hommes et des femmes de notre temps sont des gémissements qui attendent la révélation des fils de Dieu. S'il n'a pas l'Écriture pour relire l'histoire du monde de la sorte, il ne peut pas le faire. Et donc, par la prière, nous faisons corps avec le monde. La création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement, elle n'est pas seule, nous aussi en nous-mêmes, nous gémissons. Voilà, nous faisons corps avec les gémissements, avec les peines, les joies, les espoirs et les combats de ce monde. Pourquoi ? Parce que nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint. Et nous attendons encore notre adoption et la rédemption de notre corps. L'Esprit en nous vient nous unir au Christ et vient laisser passer à travers nous les gémissements du monde. L'Esprit est présenté comme les arts. Alors en termes commerciaux, les arts, c'est ce qu'on a donné et qu'on ne reprend pas. mais qui attend qu'on donne autre chose. Ce que Dieu a donné, il ne le reprend pas, c'est pas un acompte. C'est des arts. Il a donné, il ne reprend pas, et il promet d'en donner plus encore. L'expérience de l'esprit que nous faisons n'est que la première parcelle de ce que nous recevons pleinement. Et donc nous sommes dans l'espérance, et l'espérance, ça n'est pas voir, sinon ça n'est plus espérer, c'est ce qui est dit au verset 24. Alors peut-être faut-il nous arrêter ici sur l'articulation entre amour, foi et espérance. Ces trois vertus théologales qui sont au cœur de du message de saint Paul. Tellement au cœur que c'est la première phrase qu'il écrit. La première lettre complète qui nous soit parvenue, la première lettre aux Thessaloniciens, Paul rend grâce pour la foi qui se met en peine, pour la foi qui agit, l'amour qui se met en peine et l'espérance qui persévère. Première chose que Paul a écrit, première ligne, je rends grâce pour vous à cause de votre foi qui agit, de votre amour qui se met en peine et votre espérance qui persévère. En faisant un camp avec des guides handicapés, on avait ce texte-là dans la liturgie, et avec d'autres aumôniers, on avait essayé de traduire, de vivre ça, et finalement, on avait mimé la foi qui sort les mains de ses poches, l'amour qui décroise les bras, et l'espérance qui ne baisse pas les bras. Comme ça. Ça ne fait pas passer l'examen grec, mais je crois que ça dit pas mal de choses. Foi, amour et espérance sont une seule et même chose. Sont une seule et même ouverture de l'être. Ce qu'on appelle une vertu, c'est-à-dire quelque chose qui nous habite au fond. Et pour Paul, c'est davantage une ouverture, une blessure. L'œuvre de l'Esprit nous ouvre pour accueillir l'unique don de Dieu. Et c'est l'accueil de cet unique don de Dieu se traduit par un acte de foi, on reconnaît les merveilles de Dieu dans le passé. Oui, quand les apôtres disent que Jésus est relevé d'entre les morts, je le crois, j'y adhère. Comme le scotch, j'adhère à ce corps de Jésus ressuscité, je suis uni à lui. Ah, c'est l'acte de foi. L'acte de foi, et vous le voyez bien dans les expressions que Paul utilise dans cette première lettre aux Thessaloniciens, il n'est pas de rester les bras croisés. Jamais Paul n'a pensé qu'on puisse opposer la foi et les œuvres. Croire, c'est se mettre en peine pour le prochain. Et ça s'appelle l'amour. L'amour qui prend patience, qui rend service, qui se réjouit de la vérité, qui supporte tout. Vous connaissez le texte de la première aux Corinthiens. L'amour, c'est pour le présent, ici, maintenant. Cette ouverture que produit en nous l'Esprit Saint, dans le présent, se traduit par l'amour. Accueillir ce que Dieu a fait le passé, le vivre dans le présent, ça n'est possible que si l'on croit qu'il fera bien plus encore. Nous attendons encore la rédemption de notre corps. Il y a une idolâtrie qui consiste à enfermer les merveilles de Dieu dans le passé. C'est dans le psaume 76. Le peuple au désert, il regarde Moïse d'un air narquois et il lui dit « Ouais, on a ouvert la mer Rouge, on a fait ouvrir les rochers pour qu'il y ait de l'eau qui coule. On ne pourrait pas avoir une petite table là pour qu'on ait quelque chose à manger ?» Voilà, les grandes merveilles de Dieu, enfermées dans le passé, ça bouche l'avenir. L'espérance, c'est cette ouverture de l'être qui n'accepte pas d'enfermer Dieu dans ce qu'il a déjà fait. Pas facile, parce que c'est pas mal ce qu'il a déjà fait quand même. Et relever son fils d'entre les morts. Et bien, par rapport aux milliards de fils et de filles qu'il va relever, finalement, ça n'est qu'un milliardième de ce qu'il va faire. L'espérance, c'est cela. Ne pas enfermer Dieu dans ce qu'il a déjà fait et croire qu'il va faire bien plus encore.